Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, des engagements, des questions, des écritures et des réécritures qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Aujourd'hui, P comme porte-plume. Ouais, le porte-plume. J'appartiens en effet à la génération qui a appris à écrire avec cet outil scripteur, comme on dit désormais à l'éducation nationale. Un outil qui se transformait en instrument de torture et d'humiliation pour les écoliers un peu maladroits, les gauchers comme moi plus particulièrement, le porte-plume qui devenait aussi pendant les leçons d'écriture, le fusil d'assaut contre les lignes. Les lignes du cahier, bien sûr, pour nous les élèves, mais pour nos maîtres qui avaient fait la guerre, les lignes du front, de la patrie en danger, contre nos ennemis héréditaires. On était élevés au grade de soldats de seconde classe, dont la graphie, plus ou moins bien maîtrisée, notamment lorsqu'on écrivait le mot « France », avec ce bel F majuscule, dont la graphie, plus ou moins bien maîtrisée, révélait le patriotisme, ou au contraire, l'âme de mauvais Français. C'est ce que nous faisaient croire, en tout cas, nos terribles instituteurs. Et, comme le disait Jean Cocteau, au tout début de son film « La Belle et la Bête », l'enfance croit ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute. Elle croit mille autres choses, bien naïve. C'est un peu de cette naïveté que je vous demande. Et, pour nous porter chance à tous, laissez-moi vous dire ces quatre mots magiques, « Véritable sésame, ouvre-toi dans l'enfance », il était une fois. Alors oui, il était une fois. Il était une fois le porte-plume. Mais il était aussi une fois Marie-Hélène. Marie-Hélène, à laquelle je dédie cette émission. Marie-Hélène, mon amie d'enfance, mon amie d'école. Marie-Hélène qui vient de disparaître. Avec Fabienne, Martine, Catherine et Eric, mes copains d'avant, je partage la même peine. Tu es et tu resteras toujours avec nous, Malou.
Donne-moi ta main. Et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
Ouais, l'école était finie, bien finie. Sheila l'avait suffisamment chanté à l'époque. Et pourtant, vous savez, j'avais toujours retardé ce pèlerinage auquel je tenais tant. Lequel ? Ce pèlerinage au musée de l'éducation. Pourquoi l'avais-je tant retardé ? Peut-être, je crois que je redoutais de ne plus pouvoir ressortir de cet endroit, figurez-vous. De cet endroit, autant suspendu. Bizarre, non ? Pas tant que cela, je vous explique. Petit, j'avais peur, j'ose à peine vous le dire, j'avais peur de finir inclus dans un de ces blocs de résine translucide. Vous vous rappelez, ces petits blocs à la fois durs comme de la pierre et transparents comme l'eau d'un ruisseau. Et justement, qui voyait-on ? Des papillons immobiles, des scarabées armés jusqu'aux dents. Des scarabées, des papillons figés pour l'éternité. Vous voulez savoir ce que je redoutais vraiment, en les regardant, ces papillons et ces scarabées ? Bien, peut-être, peut-être, dans une salle cachée de l'école, je découvrirais, si j'avais le courage de jouer les espions, les détectives, peut-être dans une salle secrète de l'école, je découvrirais des blocs de résine. D'une taille, disons, 1m40 environ. Ouais, des blocs de résine de notre taille, de ma taille d'enfant, vous comprenez ? Des blocs jaunâtres, encore translucides, où les maîtres conservaient des élèves des autres époques. Les turbulents, les insolents, les paresseux. Voilà d'ailleurs pourquoi je ne l'étais pas, turbulent, insolent, paresseux. La peur de la résine. Aussi efficace, plus efficace même que la peur de la badine. Car oui, à cette époque, la badine, eh bien, si je puis dire, on ne badinait pas avec la badine. Tiens, la badine, c'est un peu le thème de ce morceau de Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Vous savez ce morceau où le chanteur Roger Waters exprimait sa colère et ses ressentiments envers ses profs de collège? Peut-être d'ailleurs l'origine de son besoin de se venger par la musique. Alors, finalement, merci les profs, non? Grâce au ciel, moi, j'ai échappé à la résine. Pas vraiment rassuré pour autant, figurez-vous. Eh oui, des camarades de classe disparaissaient parfois, en plein cours d'année. Alors, les maîtres parlaient de déménagement. Mais moi, je savais la vraie raison de leur soudaine disparition. La résine. Surtout que j'avais découvert un jour où un ballon avait roulé trop loin, derrière le bâtiment des classes, une porte métallique, grise comme les blocos de la guerre, avec une serrure longue, étroite et horizontale. Une serrure bizarre, anormale, complice, oui, complice, complice des crimes commis dans la salle d'exécution dont elle interdisait l'entrée. Une sentinelle de l'enfer, quoi, un cerbère démoniaque à elle seule. Le cœur battant, je n'en revenais pas de mon courage, je collais mon oreille sur le métal glacial. Qui sait, j'allais peut-être entendre des gémissements, des appels au secours, les cris de mes camarades qui avaient déménagé. Ces garçons condamnés par nos maîtres, condamnés à la résine. Mais je n'ai rien entendu. Pourtant, c'est sûr, on ne vous entend pas crier quand vous êtes plongé dans la résine, voyez-vous? Alors, j'ai gardé le silence, rien dit de mes soupçons, à personne. J'ai simplement rapporté le ballon. Ouais, j'étais un lâche, complice des crimes par résine. Un lâche, mais au moins, je pus continuer mes parties de foot, de billes ou d'osselets au récré. Pour le reste, jamais turbulent, insolent, paresseux.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
Un jour d'hiver, propice à la nostalgie, je poussais enfin la porte de l'école communale du centre à Saint-Ouen-l'Aumône. Eh ben, je m'y sentis aussitôt en culotte courte. Faut dire que j'avais fait mes classes dans une école en tout point semblable. Même pupitre, même rapporteur cloué au tableau, mêmes odeurs de grand moulne. Au mur étaient affichées les mêmes tables de multiplication et de division. La même carte de France, avec les départements que l'on connaissait par cœur, les régions, l'atlas mondial. Et puis, ces planches anatomiques du corps humain. Celles qui inspiraient mes cauchemars. La nuit, je les voyais s'avancer vers moi, les écorchés, sans peau, sans visage, du rouge pour les muscles, du blanc pour les tendons. Et ces noms suspects, ces noms de code, trapèze, deltoïde, grand dorsal, grand pectoral. Le plus étrange, jumeaux externes et jumeaux internes. Alors la nuit, j'imaginais qu'ils venaient les écorcher, pour me tirer du lit, pour m'écorcher, comme ils l'avaient été dans leur enfance, par leur maître. De quoi faire des cauchemars, non? De quoi crier comme Alice Cooper, « School's out forever ». Ah, j'oubliais, Oscar le squelette qui se tenait debout derrière le bureau du maître. Oscar, son assistant, comme le maître le désignait. Oscar, qui nous surveillait toute la journée, avec ses orbites creuses, ses yeux perdus, ses yeux peut-être dans un bloc de résine. Oscar, qui nous dénonçait si nous parlions quand le maître s'absentait quelques minutes. Qu'est-ce qui était pire ? La résine, l'écorchement, le squelette. Finalement, je crois que je préférais la résine. Au moins, on gardait notre corps intact. Alors, plus d'une fois, je l'ai marqué sur un papier pour mon maître. « Monsieur, si vous me choisissez un jour, je préfère être mis dans la résine. Merci d'avance. » Et alors ? Ah, jamais donné ce papier. À juste titre, non, parce que finalement, j'ai survécu. Ni écorchement, ni squelette, ni résine.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie.
Vous êtes toujours bien sur IDFM. Nous poursuivons ce rendez-vous compte quelque part dans la mémoire et l'âme d'un gamin de 10 ans. Cette âme qui a surgi de la nuit des temps et des hommes et qui m'a rappelé de bien belles et bien étranges histoires. Des histoires oubliées, mais qui, elles, ne m'avaient pas oublié. Un jour d'hiver propice à la nostalgie, je poussais donc, enfin, comme je vous l'ai dit, la porte de l'école communale du centre à Saint-Ouen-l'Omaute. Je m'y sentis aussitôt en culotte courte. Sur l'une des tables au vernis rayé était, négligemment, abandonné un porte-plume. À côté d'un cahier de roulement. Drôle de nom pour un cahier, non? Son contenu, des témoignages. Le témoignage des leçons et des exercices accomplis ici, autrefois, jour après jour. Comme quand j'étais en culotte courte. Des écritures d'écoliers s'y succédaient, jour après jour, avec un bonheur, disons, inégal. Écriture maîtrisée, timide, maladroite, arrogante, illisible parfois. Mais que sont-ils devenus, ces gamins? Ces gosses dont je croyais deviner les traits et le caractère rien qu'à leur façon d'écrire la date. Allez, une petite dédicace très personnelle aujourd'hui à mes chers amis de l'époque, mes copains d'avant, de Rosny-sous-Bois, Fabienne, Malou, Martine, Catherine, Fabien, Eric. C'est en pensant à vous que j'ai écrit cette histoire. Mais d'autres gosses me revenaient à la mémoire. Voyez-vous, j'appartenais à ces contingents nés dans les années 60. Nos parents et nos maîtres savaient nous aimer, ça, certes, pas de problème. Et nous instruire aussi, mais, voyez-vous, dans la discipline et l'intransigeance. À 6 ans, avec l'entrée à la grande école, comment dire, les doigts et la vie cessaient d'être roses. Je vous explique. Avant de porter, une fois la barbe venue, le fusil national, vers 18 ans, il nous fallait apprendre le maniement du porte-plume. Alors, tête baissée, lèvres serrées, nous, les jeunes recrues du CP que nous étions, tentions de maîtriser l'arme dangereuse qu'on leur avait confiée, le porte-plume. Et le porte-plume ne portait pas n'importe quelle plume, la plume sergent-major. Son nom nous inspirait déjà les plus grandes craintes, des craintes de régiment. Et sa forme de baïonnette, alors, rendez-vous compte. Chaque matin, il s'agissait pour nous d'effectuer, comme à la parade, les mêmes figures. D'abord, tremper sa plume dans l'encrier de porcelaine blanche et recueillir avec mille précautions l'encre violette. L'encre violette, l'essence sacrée de l'école laïque. Il ne fallait pas la gâcher, selon le mot du maître. Pas plus qu'on ne répand l'eau bénite sur le sol de l'église. Et enfin, tracer les signes qui faisaient de nous des savants admis dans le monde très fermé de l'écriture. Lettres de l'alphabet latin ou chiffres arabes. Et il fallait surtout les aligner impeccablement. Oui, comme à la parade, je vous le disais, c'est ça, tels des petits soldats de plomb. Alors, les lignes bleues du cahier devenaient des rangées de barbelés. Des barbelés entre lesquels nous progressions très prudemment, sous peine d'accrocs irréversibles. Il faut dire que tout franchissement intempestif entraînait des représailles. Un arrêt de rigueur, un quart d'heure, la durée de la récré. Ainsi était sanctionnée la moindre bavure, assimilée à un geste d'insubordination. Le malheureux qui rabotait la boucle supérieure du F majuscule due à la mère patrie, le malheureux devenait passible des travaux forcés, la retenue après les cours, condamné à des heures de ligne. Ce sort funeste atteignait les poilus en herbe, ceux dont la main, sous le regard de notre chef, l'instituteur, tremblait à l'assaut des côtes ou dans les plongées périlleuses. Ah, les pleins et les déliés. Comme ils étaient particulièrement redoutés des maladroits, des cœurs sensibles aussi. à ce que parfois la plume se cabrait. Elle piaffait devant l'obstacle, trouant notre terrain de manœuvre, notre cahier. Sous l'effet de la frayeur, elle déjectait en crissant une goutte d'urine violette. Vous savez, cette encre qui ne séchait pas et qui, une fois le cahier refermé, envahissait sournoisement une partie importante du territoire que nous avions pour tâche de défendre proprement notre cahier. À propos de pages sabotées par de l'encre violette rebelle, vous avez peut-être reconnu à l'instant le générique du chef-d'œuvre de François Truffaut, bien sûr, Les 400 coups, sorti sur les écrans en 1959. Vous savez, ce film où Truffaut met en scène sa propre enfance, sous les traits du jeune Antoine Doinel. Doinel, l'écolier insurgé, qui rejette l'autorité de son maître en blouse grise, un maître bien trop autoritaire. Typique de son époque, quoi. Le film s'ouvre justement en classe. Un malheureux gamin tente d'écrire le poème dicté par le maître, dans son cahier, bien sûr. Au porte-plume, évidemment. Mais, ajoutant tâche sur tâche, il finit par arracher une par une toutes les pages de son cahier, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que la couverture. Tout cela pendant que le maître dicte, tout en écrivant lui-même au tableau, donc le dos tourné, ne voit pas la scène. On entend juste sa voix, mais à l'image, on assiste au calvaire du gamin arracheur de pages. Un véritable indien scalpant un cow-boy. Essayez de visualiser la scène.
Quand déjà le bout noir de mes longues oreilles se voyait par-dessus les seigles encore verts dont je broutais les brins.
Malheureusement, le buvard Héraclès ne nous était pas d'un grand secours, malgré son nom et sa devise, jadis maître invaincu des géants de la Grèce, aujourd'hui le meilleur des buvards, Héraclès. Incroyable, deux alexandrins parfaits pour faire la pub d'un buvard. Rendez-vous compte. Et après, on prétend que le niveau à l'école ne baisse pas. N'empêche que, tout Héraclès qu'il était, tout costaud et brave, entre les costauds et les braves, eh bien, il ne m'aidait pas à éviter les tâches. De toute façon, je vais vous dire, à mon avis, il n'avait jamais dû apprendre, Héraclès, apprendre à écrire, bien sûr. Et le porte-plume noircissait donc aussi nos rêves, comme les écorchés, comme plus tard, les déclinaisons de latin que chantait Jacques Brel.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin.
Notre maître, ou peut-être son père, c'est plus très clair dans mon esprit, notre maître avait fait la guerre et il entendait bien gagner la suivante. C'est pourquoi ce général en blouse et moustache grise n'hésitait jamais à fustiger les saboteurs. Ces recrues, nous, les gamins de 7 ans, qui rentraient les doigts crottés du front, je veux dire la leçon d'écriture, ceux dont le carnet de route, le cahier, était mal tenu. Je me souviens d'un jour où il s'emporta plus que de raison. Il arracha le porte-plume des mains d'un de mes camarades, il le brisa dans un craquement sinistre. La scène terrorisa parce qu'elle nous rappelait l'infamante dégradation du capitaine Dreyfus, dont on avait cassé son épée en public devant son régiment.
Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes de la France. Au nom du peuple français, nous vous dégradons.
Soldats, on dégrade un innocent! Soldats, on déshonore un innocent!
Un silence pesant de cour martiale s'abattit sur la classe. Le coupable, mon camarade de rang, fut rétrogradé. Oui, dégradé au rang de porteur de crayon à papier, l'infamie, et provisoirement déporté derrière le tableau. En revanche, les voltigeurs, qui avaient rempli leur mission avec élégance et distinction, se voyaient, par une franche accolade du professeur, cité en exemple aux troupes harassées, nous, les autres. C'est tout juste si leur nom n'était pas gravé au fronton de la classe. Ils recevaient un bon point, des images qui, à nos yeux, avaient valeur de permission. Des images sur lesquelles on avait inscrit leur nom avec une calligraphie impeccable. à peine humaine. Moi, le gaucher, je n'ai jamais gagné cette sorte d'image pieuse, laïque. En dehors des scènes de cour martiale, entre guillemets, dues au porte-plume, ce cher porte-plume, nous pouvions également être victimes, parfois, d'accusations injustes. Histoire, bien sûr, de faire un exemple individuel, un exemple qui inciterait la classe à se tenir à carreau. Ou bien, on pouvait être accusé de tricherie. Là, c'était vraiment grave. C'est justement ce qui arrive à Antoine Doinel dans cette autre scène des 400 coups, lorsque son maître l'accuse, pour une rédaction écrite à la maison, d'avoir plagié Balzac. Rendez-vous compte.
Doinel, si votre copie se présente la première, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de donner les résultats dans l'ordre inverse du mérite. Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami.
C'est pas vrai, monsieur, j'ai pas copié.
Vous êtes un abominable plagiaire.
C'est pas vrai, monsieur.
Allez immédiatement porter votre copie à monsieur le directeur.
Ce jour d'hiver propice à la nostalgie, dans ce musée de l'éducation, situé dans l'ancienne école communale du centre, à Saint-Ouen-l'Aumône, je refermais le cahier de roulement et mon âme d'enfant. Alors seulement, je remarquais le petit garçon, assis à la table, proche de la mienne. Sur une feuille de papier, il s'appliquait à écrire, avec le sérieux des enfants et des diplomates. Quand il fit lire sa phrase à sa mère, celle-ci lui dit en l'embrassant, « Tu sais, mon chéri, je t'aime » s'écrit « Aïe » et non « E » accent grave. Souriant, le petit retourna son stylo et avec la partie effaceur de son feutre, corrigea tout simplement son erreur. C'est avec sagesse que l'on a supprimé le service militaire, les maîtres à blouse grise et le porte-plume. Vous êtes toujours bien sur IDFM, nous poursuivons ce rendez-vous compte quelque part dans la mémoire et l'âme d'un gamin de 10 ans, cette âme qui a surgi de la nuit des temps lors de ma visite au musée de l'éducation de Saint-Ouen-l'Aumône. J'abandonnais donc avec sagesse et pour toujours le porte-plume. Je reposais prudemment cette arme de mon enfance. Cette arme qui, heureusement, n'avait tué que quelques pages vierges aux lignes bleues horizon. Je fis quelques pas dans la salle de classe musée. Au mur étaient affichées les mêmes maximes éducatives. La politesse est un fonds qui ne coûte rien, mais rapporte beaucoup. Il n'est si bon pain que celui qu'on a gagné. Mais le hasard, je préfère dire le destin désormais, attira mon regard vers une demi-douzaine de petites boîtes. Des petites boîtes qui semblaient vouloir se faire oublier, oublier au fond d'une étagère. Des petites boîtes bien sages, couvertes de belles petites gravures. Devinez, des boîtes de plumes sergent-major. J'avais décidément du mal à oublier ces épisodes de l'encre violette. Je n'osais pas ouvrir la moindre de ces boîtes, par un respect quasi religieux, par crainte aussi. Et si je devais à nouveau écrire sous leur menace? En plus, Oscar, oui, le squelette Oscar, était là, toujours là à me surveiller. Je regardais donc, mais pas de trop près quand même, les gravures. Enfin, disons plus modestement, les étiquettes. Et sur ces étiquettes, des boîtes de plumes de sergent-major, je retrouvais des scènes de bataille. Fleurus, Bouvines, Rivoli, le moulin de Valmy de la Révolution, les pyramides de Napoléon. Rien d'anodin dans ces choix. Les instituteurs, je l'ai appris plus tard, recevaient ces boîtes avec des instructions patriotiques. Ouais, patriotiques. Tout était bon à l'époque pour susciter l'amour de la patrie et de son armée. Il paraît que cela remontait au début de l'école laïque, quelques années après la grande défaite de 1870, celle où les Allemands nous avaient volé l'Alsace et la Lorraine. Et la plume sergent-major était devenue finalement synonyme de victoire, de revanche, de bataille gagnée. Fleurus, Bouvines, Rivoli, Valmy, les pyramides. Oui, de revanche, surtout après la restitution de ces deux régions françaises, l'Alsace et la Lorraine, en 1919.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Ah, ce titre de France Gall, sacré Charlemagne, ça me ramène forcément au livre d'histoire. Ce livre, c'était aussi toute une histoire, voyez-vous. Il sentait bon la Gaule et la guillotine. La leçon venait chaque mardi en début d'après-midi. Le maître quittait alors solennellement sa blouse grise et avec l'air d'un homme qui en veut en découdre. Il revêtait d'un coup la tunique de Vercingétorix, ou bien l'armure du chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, ou plus encore, je crois que celle-là il la préférait, la capote des poilus de Verdun. Et je voyais pousser des tresses blondes de guerriers celtes, le bouc pointu de Richelieu, ou bien encore la barbe de Jules Ferry.
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur.
Tour à tour, sa règle carrée, taillée en pièces, un soldat romain, un cavalier sarrasin ou un amiral britannique. Emporté par sa fougue, il montait sur son estrade, comme Marat à la tribune de la Convention. Et il suffisait de l'écouter pour savoir la leçon. Désignant d'un geste héroïque la gravure accrochée au tableau, il racontait les lâches victoires de l'ennemi et les triomphes mérités de nos armées. Grâce à lui, nous haïssions aveuglément César, Ravaillac et Bismarck. Ces récits furieux soulevaient en nous un élan patriotique, incontrôlable. Nous regrettions que la République n'ait pas ouvert dans notre préau un bureau de recrutement. D'ailleurs, à la récré, ça recrutait fort en guise de compensation. Mais le maître savait calmer nos ardeurs. D'abord, copier le résumé, ces quelques lignes qui s'inscriraient à jamais dans notre mémoire. Ces lignes que je me récite encore parfois. Et puis, hélas, il nous fallait reproduire sur notre cahier le croquis. Le croquis correspondant à la leçon. Malgré ces croquis, c'est ainsi que, sous son commandement, je fus barbare viking, écuyer de Saint-Louis ou porteur du bonnet phrygien. Mais je connus bien des cauchemars patriotiques, parce que ma cousine, qui, elle, fréquentait l'école privée catholique, ne manquait pas de me l'affirmer. Notre chère révolution n'avait été qu'un interminable bain de sang de princes et de prêtres. J'avais d'ailleurs fini par me poser des questions, me demander ce qu'on pouvait leur apprendre aux filles dans leur école séparée. Parce qu'en fait, j'avais fait mes recherches. Eh bien, à l'exception de Jeanne d'Arc, aucune représentante du sexe faible ne semblait avoir contribué à l'histoire de notre pays. En plus, Jeanne d'Arc, c'était, je crois, finalement, j'en suis pas sûr, mais un homme déguisé en Jeanne.
Elle était seule sur son cheval blanc face à toute l'armée anglaise et elle les a mis en déroute. Et maintenant, Orléans est libérée.
Ouais, décidément, mon enfance a commencé à tourner court lorsque mon manuel d'histoire a cessé d'être un livre à rêver.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
Ainsi s'achève notre rendez-vous compte consacré à mon retour en enfance, à l'école de mon enfance, à ce porte-plume baïonnette, à ce livre d'histoire, aux drôles d'histoire, à ces instits de sergent-chef de leur classe, aux plumes sergent-major, des histoires venues de la nuit des temps, oubliées, mais qui, elles, ne m'ont pas oublié. Une mission dédiée donc à nos années d'enfance, ces années peuplées de rêves, de confusion, d'amour et de crainte. Dédié surtout à notre chère Marie-Hélène, que j'aimerais retrouver dans un de ces blocs de résine où nos maîtres enfermaient les élèves qui disparaissaient sans explication. Ouais, je te sortirai de cette vie suspendue pour partager de nouveau avec toi ces moments inoubliables que nous avons vécus tous ensemble. Tu te rappelles ce tonnerre qui s'est abattu sur moi le jour où, rebelle en culotte courte, j'ai refusé de chanter le chant du départ devant toute la classe? Ou alors, le front commun contre notre prof de français, dont, en tant que délégué de classe, toi et moi, nous organisions le boycott en donnant pour instruction à nos camarades de ne jamais participer à l'oral pendant ses cours. Toi, chez qui, dans ton jardin, garçon et fille de 12 ans, nous faisions nos premières danses du tapis. Adultes depuis longtemps, on se retrouvait deux ou trois fois par an pour des déjeuners de quiches salées et de souvenirs sucrés. Toi, Marie-Hélène, qui a marqué notre cœur avec la plus fine des plumes d'une encre qui ne séchera jamais. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delattre sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure, sur IDFM.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.